Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Cyril Marchand et Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jordan Fuentes. Et ce matin, on se réveille avec les musiques d'Ennio Morricone. 6 mois après sa disparition, après la disparition du maestro, le journaliste Jean-Christophe Manusso sort un ouvrage conséquent de 1000 pages consacré au compositeur, musicien, arrangeur et chef d'orchestre italien qui a composé, mine de rien, durant sa longue carrière, plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision. Ennio Morricone, entre émotion et raison, tel est le titre de l'ouvrage de Jean-Christophe Manusso qui vient de sortir aux éditions Camion Blanc. L'auteur est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Il a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête, Ennio Morricone. Ça, c'est la musique d'un film qui n'est peut-être pas très important, Le Secret de Robert Enrico en 1974 avec Trintignant, Noiret, Marlène, Jobert. Mais la musique est effectivement très belle. C'est une des musiques que vous préférez de toutes les musiques qu'il a composées. Jean-Christophe Manusso, bonjour.
Bonjour Toufik.
Et votre livre qui vient de sortir aux éditions Camion Blanc, Ennio Morricone entre émotion et raison, c'est un travail de 3 ans. Hein. Vous avez rencontré les gens qui ont travaillé avec lui, les spécialistes. Vous décortiquez très bien la musique d'Ennio Morricone. Comment d'ailleurs qualifier cette musique ?
C'est une musique qui a beaucoup de visages. En fait, on pourrait dire que Morricone est un compositeur vraiment multiforme. Il a, pour une bonne partie, son style est quand même lié à cet aspect très lyrique, très romantique, à consonance souvent religieuse. Et il y a un deuxième aspect de son travail qui est plutôt lié à l'atonal, à l'inquiétant, aux recherches bruitistes. Il a souvent incorporé des bruits dans sa musique. Et donc cet alliage entre le sucré et le salé, si j'ose dire, donne une sorte de fusion qui est vraiment unique.
Il y a aussi ce mélange entre la musique classique, la musique philharmonique et puis la culture populaire, parce qu'il a illustré des films de Sergio Leone, bien sûr, mais des films vraiment de culture très très populaire.
Tout à fait, et d'ailleurs ce n'était vraiment pas vraiment vers ça qu'il se dirigeait au départ, puisque Morricone a suivi un enseignement très classique à l'Académie Sainte-Cécile de Rome, un établissement prestigieux, et il se voyait déjà comme un grand compositeur classique, mais malheureusement, dans les années 50, il s'est vite rendu compte que cet aspect n'allait pas être suffisant pour nourrir sa famille. Donc il a dû se tourner vers des formes plus populaires, comme les arrangements pour la radio, pour des chansons. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'au cinéma, au début des années 60. Et bien sûr, c'était un métier qui était plus rémunérateur.
Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, passionné de musique et de cinéma. Ce livre consacré à Ennio Morricone vous a pris 3 ans de travail, Jean-Christophe Manusso. Est-ce qu'on peut parler de période dans la vie et la carrière d'Ennio Morricone? Parce qu'à un certain moment, votre livre nous propose aussi cette entrée par période, la période française, la période italienne avant, la période américaine ensuite.
Oui, tout à fait. On peut déterminer comme ça des périodes qui sont vraiment très très visibles dans son œuvre. D'abord, bon, il y a eu évidemment le travail en Italie, la reconnaissance dans son pays. Ensuite, il a commencé à travailler à la fin des années 60 pour la France. Et cette période a duré jusqu'au milieu des années 80. Et petit à petit, sa renommée a commencé à grandir et est arrivée jusqu'aux oreilles des producteurs américains. Et à partir de 77 à peu près, a commencé sa carrière américaine, qui l'a vu travailler avec les plus grands réalisateurs, hein, que ce soit Terrence Malick, Brian De Palma, Roland Joffé ou encore Warren Beatty. Et cette période a culminé bien sûr avec le triomphe de Mission, qui a remporté un grand prix.
Et puis, il a travaillé avec des grands metteurs en scène. Est-ce qu'il avait la même latitude, la même liberté quand il travaillait pour des super productions américaines? Est-ce qu'il pouvait tout faire, Ennio Morricone, finalement, Jean-Christophe Manusso?
C'était vraiment sa philosophie de travail qui consistait à ne suivre que son intuition. Il aimait beaucoup interagir avec les réalisateurs et il adorait expérimenter, proposer de nouvelles choses. Donc oui, d'une certaine façon, il a toujours été libre, même sur des gros films, comme par exemple Les Incorruptibles, qui est une très grosse production. Il avait une liberté parce qu'il s'entendait bien avec Brian De Palma et il pouvait proposer des morceaux qui étaient vraiment, vraiment originaux pour un blockbuster comme ça.
Plus tard, quand les réalisateurs feront appel à Ennio Morricone, ils l'appellent pour faire du Ennio Morricone. Je veux dire que quand Tarantino, par exemple, fait appel à Ennio Morricone, c'est pour avoir le son d'Ennio Morricone. Mais alors, c'est quoi le son d'Ennio Morricone? C'est celui qui renvoie au western italien des années 60-70? C'est celui qui va affiner avec les réalisateurs français? Ou c'est le son Ennio Morricone tel qu'il a été diffusé par les grands films et les blockbusters américains?
Ben c'est un peu tout ça en fait. Le style de Morricone est tellement adaptatif qu'il garde son essence propre tout en adoptant de nouvelles couleurs. C'est vraiment quelque chose d'étonnant quoi, le style morriconien. Après moi dans mon livre j'ai essayé comme ça de déterminer un petit peu qu'est-ce qu'était ce fameux style morriconien qu'on a pu entendre en France dans les polars des années 70 ou aux États-Unis dans les films de Terrence Malick ou d'autres, ou en Italie avec chez Tornatore. On retrouve toujours cette utilisation déjà de la voix comme instrument. Ça, c'est un élément vraiment très important.
La voix, ça peut être un chant, ça peut être des sifflements, ça peut être oui. Juste des bruits de bouche.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la voix dans toutes ses formes, que ce soit des sons gutturaux ou un sifflement ou un cri, ça peut être tout ce que la voix humaine peut faire. Ensuite, on peut parler aussi de réduction instrumentale, c'est-à-dire que contrairement aux grands compositeurs américains comme John Williams, Morricone utilise souvent une palette assez réduite d'instruments. Il préfère réduire la couleur instrumentale. Et il y a aussi, ce qui est très important chez lui, cette recherche du timbre, c'est-à-dire qu'il aimait retrouver de vieux instruments, que ce soit des instruments folkloriques ou ethniques, et les introduire comme ça en leur donnant une part importante dans l'orchestre. Et on peut parler par exemple du maranzano, hein, c'est la guimbarde sicilienne qu'il a utilisée à beaucoup de reprises, ou même l'ocarina, ou des instruments comme ça très rares que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître, j'avoue, en écoutant ces BO. Mais c'est vraiment un travail intéressant qu'il fait. Et il y a aussi, on peut parler aussi de l'utilisation des bruits issus du monde réel. Il y a une fameuse chanson italienne, Il Barattolo, dans laquelle il utilise un bruit d'une canette en métal qui tombe dans un escalier. Et il a réussi à introduire ce son dans la chanson pour justement lui donner son rythme.
Alors vous qui dites qu'Ennio Morricone a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête, est-ce qu'il travaillait avec les images? Est-ce que c'est d'abord les films, les images qui l'inspiraient? Est-ce qu'il travaillait aussi avec les bruiteurs?
Non. Morricone travaillait en fait en général à partir du scénario. Ou à partir d'un premier montage que le réalisateur lui montrait. Et dès qu'il avait vu ce premier montage, ou dès qu'il avait lu le sujet du film, il se mettait tout de suite à composer, et il composait toujours en écrivant avec son crayon sur ses partitions. Il ne composait jamais au piano, et c'est comme ça qu'il rentrait dans la tête des personnages. Et si on peut vraiment dire une chose qu'a apporté Morricone au cinéma, c'est cette façon de traduire en musique ce qu'il se passe dans la tête des personnages et non pas ce qu'on voit en action dans la scène.
Et sans instruction du réalisateur ou du producteur du film?
Alors si, il y avait bien sûr des échanges avec le producteur, et d'ailleurs Morricone se plaignait souvent quand il n'y avait pas cette interaction. Lui, il aimait justement les rencontres fortes avec des personnalités comme Léon ou Tornatore, avec qui il pouvait vraiment échanger, avoir un dialogue, et avoir un dialogue constructif autour du film. Et à un moment, il parle d'Almodovar, il a fait la musique d'Attache-moi pour Almodovar, et Almodovar ne lui faisait aucun retour. Et du coup, c'est là qu'il était le plus malheureux, quand il ne savait pas ce que le réalisateur pensait de sa musique. Il avait besoin de cette confrontation, qui était parfois orageuse, avec Léon, ça pouvait être assez orageux, mais qui débouchait sur des œuvres qui traversent le temps.
Ennio Morricone, entre émotion et raison de Jean-Christophe Manusseau, vous restez avec nous après avoir parlé des rapports qu'entretenait Ennio Morricone avec les réalisateurs. On va voir aussi quel rapport il pouvait aussi entretenir avec les chanteurs et les chanteuses. Jean-Christophe Manusseau, est-ce que Ennio Morricone avait les mêmes rapports avec les grandes voix, les chanteurs, les chanteuses? Là, on vient d'écouter Edda Dall'Orso, la voix d'Edda Dall'Orso, dans une variation de la musique qui l'a rendu célèbre. Il était une fois dans l'Ouest, interprété par l'orchestre La Voce. C'était en 1977. Il avait les mêmes rapports avec les chanteurs et les chanteuses, Ennio Morricone?
Oui, il avait un rapport très proche et très fusionnel en fait avec les chanteurs et les chanteuses. La plus emblématique évidemment, c'est Edda Dall'Orso, puisqu'il a travaillé avec elle depuis le début des années 60 jusqu'à la fin des années 90, et il a fait appel à elle un nombre considérable de fois. Mais il a aussi travaillé avec d'autres chanteuses pour qui il donnait quasiment son répertoire, il ouvrait son répertoire à ses voix dont il tombait amoureux pour faire des albums, comme par exemple l'album qu'il a fait avec Amy Stewart, en 1990. Il a aussi travaillé avec Lisa Gérard, hein, la chanteuse de Dead Can Dance, où en concert, il a aussi souvent fait appel à Dulce Pontes, hein, cette chanteuse de fado portugaise. Il adorait ses voix, et avec tous les gens qui ont travaillé pour lui, il était d'une très, 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 très grande exigence. Par exemple, si j'ai aussi interviewé des musiciens, hein, pour mon livre, et certains, comme Giorgio Carnini, qui est un joueur d'orgue, ou Marianne Eckstein, qui est une flûtiste, m'ont raconté que Morricone aimait composer exprès pour eux des œuvres extrêmement difficiles, qu'il n'était les seuls à pouvoir la jouer.
Comment présenter l'arrangeur Ennio Morricone ?
C'est quelque chose de particulier qui consiste à prendre une mélodie qu'a écrite un compositeur et à la transformer vraiment en une chanson en tant que telle. Et ça, il a eu cette activité au début de sa carrière, mais il a continué ensuite plus tard. Et ça consiste en fait à donner son corps à la chanson, à rajouter des bruitages ou à choisir les instruments. Et il a eu un succès énorme avec ses arrangements dans le monde entier. Hein. Morricone, c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs visages, comme je disais tout à l'heure, notamment arrangeur, compositeur de chansons, compositeur pour la salle de concert et compositeur de films. Et c'est le domaine pour lequel il est le plus connu, mais il a aussi d'autres visages.
Jean-Christophe Manusso, vous dites que Ennio Morricone, pour composer ses musiques, n'avait pas besoin d'instruments de musique. On l'imaginait derrière son piano, mais vous dites que non, il avait juste du papier et un crayon.
Oui, ça lui suffisait. Il y a beaucoup de compositeurs, effectivement, qui composent sur le piano, mais lui, ce n'est pas le cas. Ce qui le rend très particulier, c'est qu'en plus, il écrivait lui-même ses orchestrations, c'est-à-dire qu'en général, un compositeur compose sa partition, et ensuite il y a d'autres personnes qui écrivent les partitions de chaque instrument, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Mais lui tenait à faire tout ça de A à Z, ce qui représente évidemment, vous l'imaginez, pour un grand orchestre, une somme de travail phénoménale.
Dans votre livre, donc, Jean-Christophe Manusso, vous passez en revue les grandes collaborations d'Ennio Morricone avec les réalisateurs, mais pas seulement, aussi avec les musiciens, avec les chanteurs. Vous analysez ses musiques de films suivant les périodes. Vous donnez la parole à ses collaborateurs et à ses admirateurs aussi. Et puis, vous essayez de répondre à cette question, effectivement, très importante, pour ne pas dire essentielle, voire existentielle. Comment le maestro a-t-il pu concilier deux mondes très différents, c'est-à-dire évoluer dans le cinéma le plus commercial qui soit et écrire de la musique pour la salle de concert, ce que d'ailleurs Ennio Morricone appelait la musique absolue, ce qui m'amène au titre de votre ouvrage, Ennio Morricone entre émotion et raison, Jean-Christophe Manusso.
Alors déjà il y a le côté apparence physique, hein. Morricone avait la réputation d'être très difficile. Il a plus le physique d'un professeur de physique que d'un compositeur de musique. Mais ça va plus loin et ça va aussi jusqu'à sa manière de travailler. Parce qu'il avait un rapport très théorique à son travail. D'ailleurs, il y a un théoricien italien qui s'appelle Sergio Micheli qui a écrit plusieurs bouquins de théorie sur la musique de Morricone. Et en fait, lui, il faisait toujours cette distinction entre musique appliquée et musique absolue. Mais quand on regarde, finalement, quand on fait un bilan de son œuvre, on se rend compte que ces deux mondes ne sont pas séparés. Les frontières sont poreuses. Et il allait constamment d'un univers à l'autre. Et ses recherches dans la musique absolue étaient utilisées au cinéma et inversement. Donc en fait, il a souffert pendant des années parce qu'il n'était pas reconnu pour sa musique de concert, sa musique absolue. Mais finalement, le fait d'avoir eu cette reconnaissance mondiale pour sa musique de film, finalement, ça montre bien que son savoir-faire, il était là. Il était dans cette fusion entre différents éléments, des éléments vraiment difficiles à tonneau et qui sont vraiment difficiles d'écoute, et un côté très mélodique, très romantique, qui très accrocheur et qui peut toucher tout le monde.
Et en couverture de votre livre, on le voit avec une baguette. Il aimait être aussi chef d'orchestre, Ennio Morricone.
Oui, il aimait beaucoup. Il s'est lancé dès le début des années 2000 dans une série de tournées faramineuses. Il faisait
des triomphales, ouais.
Oui, et triomphales dans le monde entier. Et il n'y a aucun autre compositeur de musique de film comme lui qui ait connu cette carrière sur scène. Les gens venaient par milliers pour l'acclamer. Et il y avait une telle ferveur dans ses concerts qu'on peut parler que de communion, quoi, de communion avec cette musique fabuleuse.
Ennio Morricone, qui est mort en juillet dernier, ça fait donc 6 mois. Vous, ça fait 3 ans que vous travaillez autour de son œuvre. À aucun moment vous l'avez souhaité le rencontrer lui-même directement, puisque vous avez préféré travailler avec ceux qui étaient très proches de ses travaux musicaux, ses collaborateurs, les musiciens, les réalisateurs.
C'était pas un choix prédéterminé. Au contraire, moi, j'avais plutôt envie de le rencontrer. J'ai fini par avoir un contact direct, mais à ce moment-là, c'était déjà trop tard parce que il y avait la pandémie qui était arrivée. Et non, c'est vrai que je regrette un petit peu de pas avoir pu le rencontrer, mais il y avait déjà tellement d'interviews et tellement de sources disponibles que j'avais déjà beaucoup de matière.
Entre émotion et raison, Ennio Morricone s'est édité chez Camion Blanc. Merci beaucoup Jean-Christophe Manusso d'avoir accepté cette invitation dans le Réveil Culturel.
Merci à vous.